Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez sorti tout ce qu'il va vous falloir pour vous réchauffer parce que ça va pas être chaud tout à l'heure. Mais nous sommes là pour vous réchauffer un peu, nous, ce matin. On a pas mal de sujets très le fun pour vous. On va passer la prochaine heure à parler de véhicules électriques parce que vous savez que le prochain Salon de Montréal ouvre ses portes bientôt, arrive à grands pas. Bon, voilà. Et on va vous poser la question. Est-ce que vous êtes en train de magasiner un véhicule? Est-ce que vous avez l'intention de choisir encore de l'essence? Est-ce que vous allez vous tourner vers l'électrique, la grande tendance? Compact ou VUS, ce qu'à peu près tous les constructeurs ont décidé de construire au détriment des voitures? On va en parler avec Antoine Joubert, Benoît Charrette, que je vais vous présenter dans deux minutes. Mais je veux aussi vous dire qu'en deuxième heure d'émission, c'est quelque chose d'assez important qu'on va vous dire. C'est un peu une exclusivité qu'on a, c'est que vous êtes au courant, il y a un recours collectif contre certaines communautés religieuses au Québec, plusieurs recours collectifs. Mais il y en a un, entre autres, un nouveau recours qui touche les victimes des pères oblats. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui ont été agressés sexuellement par des pères qui étaient un peu partout à la grandeur du Québec à partir des années 50. Et ce recours-là, qui vient d'être instauré, touche les victimes. Le problème, de 1950 à aujourd'hui, le problème, c'est que vous êtes tellement éparpillés partout et personne ne veut parler. Alors, tout à l'heure, à 11h05, je vais vous donner l'occasion de vous faire connaître. Vous pourrez donner d'autres noms. L'important, c'est que si vous connaissez des gens qui ont été justement agressés par des pères de cette communauté oblat, si vous en avez dans votre famille, si c'est peut-être votre cas, on aura l'occasion de vous aider à participer à ce recours collectif. C'est important. Si vous vous reconnaissez, on parlera de ça tout à l'heure en deuxième heure d'émission. Puis ensuite, je vais chercher qui sont les plus gros fumeurs au Québec. Vous savez que c'est la semaine sans tabac qui commence avec des statistiques assez incroyables. Je lisais ça encore hier. Là. Vous savez qu'une personne sur deux qui fume au Québec, là, une personne sur deux va mourir dans 10 ans. C'est ça que dit la statistique. Moi, ça me coupe le souffle. Déjà que j'en ai pas beaucoup à cause de la grippe. Mais sincèrement, si vous êtes fumeur puis que vous entendez ça, là, mettez-vous ça dans la tête. Là. Une personne sur deux, donc si c'est vous, bien, vous avez 50% des risques de plus être là dans 10 ans. T'sais, on parle beaucoup du défi 10 ans. Là. T'en auras pas de photo dans 10 ans. Là. En tout cas, ça fait réfléchir. Nos gars de char sont là. Merci d'être là, Benoît, Antoine. Je sais qu'Antoine, en fait, t'étais-tu au Salon de Détroit, toi aussi?
Oui, on était tous les deux là.
Vous étiez-vous dans le même véhicule? Avez-vous fait la route ensemble?
Non, lui, il l'a fait en auto, je l'ai fait en avion.
Ah, c'est ça, parce
que... Moi, je l'ai fait comme chroniqueur automobile, Benoît comme chroniqueur aérien.
Oui, c'est ça. Bon, Antoine Joubert, chroniqueur auto, guide de l'auto. Benoît Charrette, éditeur, rédacteur en chef de l'annuel de l'auto 2019 avec RPM. On va parler de véhicules parce que oui, c'est le Salon de l'auto qui ouvre ses portes cette semaine. Il y a beaucoup de nouveautés. On entendait à Paul Arcand, mon collègue, M. Mitsubishi, qui nous racontait un peu de quelle façon l'intelligence artificielle allait sans doute modifier beaucoup la façon dont on va percevoir nos véhicules, la façon dont les constructeurs aussi s'organisent. Là, on voit qu'à Montréal, on va en parler de Montréal, mais peut-être un petit mot sur Détroit quand même, que vous avez trouvé assez... plate?
Un petit mot, écoute. Plate, c'est pas le mot, c'est déprimant. Ouais, c'est littéralement, c'était le salon de la dernière chance.
Requiem pour un salon qui se meurt, hein?
Ça fait une couple d'années que vous dites ça, ouais.
Oui, mais là, l'image que j'avais, c'est que moi, je me souviens d'une époque où la salle de presse, la salle média à Détroit était bondée. Il y avait plus de 4 500 journalistes sur place. Cette année, s'il y en avait 500, c'était beau.
Puis en plus, il y avait agrandi la salle de presse pour un salon où il n'y avait plus de journalistes.
Alors, il y avait beaucoup de nourriture laissée dans le buffet. Ça, c'était l'avantage. Parce que c'était... Non, je veux dire, c'était complètement vide.
Pourquoi il n'est plus ce qu'il était, ce salon-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui est en large partie responsable. Parce que le Consumer Electronics Show, il y a 7-8 ans, c'était caméra, télévision, dernier gadget électronique. Et un jour, un constructeur automobile est arrivé pour présenter une innovation technologique... Ouais. Qui était, entre autres, un tableau de bord. FCA était parmi les premiers qui ont présenté le U-Connect, là, il y a quelques années. Et on avait 3-4 constructeurs auto. Là, aujourd'hui, il y a une aile complète
du
salon.
Là.
Et tous les constructeurs automobiles sont là. Et c'est la semaine avant le salon de Détroit.
Ben oui,
donc, si on présente une innovation au CES, ben, on n'est pas à Détroit. Alors, ça
ils se sont fait cannibaliser finalement
ça
par
fauche
le salon de Las Vegas. Ouais.
Et l'autre détail qu'on parle moins souvent, le salon de l'auto de Los Angeles, qui autrefois était tout juste avant Détroit et n'avait que de... En fait, c'était un salon de concessionnaires de la Californie. Et là, un jour, on a reculé le salon en novembre. Et là, les constructeurs ont commencé à s'impliquer un peu plus. Et la Californie, ben, c'est la mecque de l'automobile aux États-Unis. Détroit est peut-être le berceau de l'automobile, mais les autos, c'est en Californie qu'ils se vendent. Les centres de recherche sont là-bas. Le design avancé, l'autonomie, l'électricité, tout se développe en Californie.
Tout le monde a des bureaux là-bas, là.
Voilà.
C'est ça.
Et alors que Détroit, un salon plus important, puis encore une fois au détriment de Détroit.
Il y a aussi les coûts. Il y a aussi les coûts. Exposer, avoir un kiosque dans un salon automobile, ça coûte extrêmement cher pour un constructeur. Et
combien?
Aujourd'hui,
on sait combien?
Oui. Ford à Détroit, ça leur coûte 20 millions par année d'être là. Pour
What?
Le salon de Détroit. On ne parle pas des autres salons. Mais
20 millions?
Oui, madame.
Bon, ça, c'est vraiment un chiffre épouvantable. Il y en a que c'est moins cher.
C'est moins cher.
Mais même d'autres. À Montréal, les constructeurs se posent toujours la question, est-ce que ça vaut la peine? C'est une partie importante de leur budget publicitaire annuel. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, il y a de multiples façons de promouvoir ces produits. À l'époque, tu pensais automobile, tu pensais salon de l'auto. Il n'y avait pas mille façons de le faire. Aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux.
Voilà.
Tu peux présenter en live Facebook, en streaming, un véhicule devant beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup de façons de le faire. Il y a les influenceurs qui se sont intégrés là-dedans, qui vont aller promouvoir des produits de différentes façons. Bref, le salon de l'auto, c'est plus l'unique solution.
Non.
Donc, il y a les pointes de tarte qui se divisent.
Puis
et il y a des constructeurs qui décident de ne plus plonger là-dedans parce que les prix n'ont pas changé. Ils ont même augmenté parce qu'eux autres, ils doivent composer avec des pertes financières épouvantables.
Exact.
Donc, pour pouvoir continuer à tenir un salon d'auto, on charge plus cher à ceux qui veulent rester. Donc, ça n'a pas de bon sens.
Et pourquoi Montréal? Parce que Montréal semble bénéficier d'une plus grande popularité.
Ah, mais c'est pas pareil. Parce que Montréal, c'est un salon... Ben, je veux pas insulter le salon de Montréal parce que c'est un salon qui fonctionne super bien.
Oui.
Mais c'est pas un salon international. C'est un salon...
C'est une bulle.
C'est un salon régional.
C'est un salon de concessionnaire.
C'est un salon de concessionnaire organisé par la corporation.
Voilà.
En collaboration, bien sûr, avec les constructeurs. Donc là, c'est l'avantage, c'est que tu as une espèce de proximité avec le constructeur, avec les vendeurs automobiles qui sont là.
Si tu veux magasiner, c'est la bonne place.
Ben voilà.
Ouais. Voilà.
Tandis que Détroit, c'est un show.
Okay.
C'est différent.
Détroit, il n'y a personne qui vend des autos là. C'est un salon de constructeurs qui est organisé par la maison mère de la compagnie qui amène ses employés là-bas. C'est l'endroit, nous, où les journalistes... Et ça, bon, ça n'a pas rapport au public. Mais nous, quand on veut voir un exécutif, quand on veut voir un président de compagnie, c'est dans les salons de l'auto qu'on va, parce qu'ils sont là. Prendre un rendez-vous. Moi, j'ai rencontré Christian Meunier, qui était chez Nissan Canada, qui est le nouveau président d'Infiniti Mondial. Il était à Détroit, j'ai pris un rendez-vous, j'ai fait une entrevue.
Eh bien, il ne sera pas forcément à Montréal.
Il n'est pas à Montréal, il devait y être, mais bon, ils ont saisi son passeport parce qu'il s'en va en Chine. Ça, c'est une longue histoire. Mais le fait est que si j'essaye de prendre un rendez-vous avec Christian Meunier dans le reste de l'année, bonne chance. Là.
Alors,
ces gens-là ont des horaires de 5
heures. Ironiquement, puisqu'il n'y avait personne cette année à Détroit, de faire des entrevues, c'était très facile.
Voilà.
moi, j'ai toujours dit que le meilleur salon pour faire des entrevues avec des dirigeants de compagnie, c'était le salon de Chicago. Parce que Chicago, c'est le plus gros salon automobile où il n'y a pas un chat des médias qui se présente.
Pourquoi?
Pourtant, parce que les dévoilements là-bas ne sont pas d'une grande importance. C'est pas un salon qui est visé pour les médias. C'est un salon public.
Ouais.
Mais moi, je pense que ça va changer. Parce que là, Détroit ne revient pas en janvier l'année prochaine. On repousse le salon en juin 2020.
Chicago va rester en février.
Et Chicago reste en février pour ouvrir le bal des salons américains. Et moi, je pense que les constructeurs vont se diriger vers Chicago.
Puis on s'entend que le McCormick Place, on peut accueillir 14 salons de Détroit là-dedans.
C'est grand comme 167 Costco, cette affaire-là. C'est épouvantable. C'est gigantesque.
C'est très gros.
C'est probablement l'endroit le mieux adapté pour faire un salon d'envergure. Ça,
aux États-Unis, je pense que oui.
Ouais.
Et donc, alors Montréal, quelles seront les nouveautés à voir? Parce que déjà, j'ai beaucoup d'auditeurs qui posent des questions. Beaucoup de gens qui sont en magasinage de véhicules.
Ouais,
alors, vos grandes attentes, Antoine, Benoît?
Ben les électriques. C'est sûr que là, on arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures électriques. Hyundai et Kia vont présenter, finalement, le Kona EV qui débarque. Kia avec la Soul électrique et le Niro électrique. Trois véhicules qui ont près de 400 km d'autonomie qui sont accessibles pour pour des gens qui ont un budget pas trop élevé. Donc, on parle d'un véhicule de 40, 42, 45 000 $ moins le rabais. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de regarder ça.
Puis, Antoine, on va aussi la section générateur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il va y avoir 42 véhicules électriques qui vont être là. Ben, en fait, électrique, électrique branchable et 100 % électrique avec des hybrides et des gens qui sont dans l'électrique produit, bornes, des gens qui offrent des services. Donc, pour les gens qui veulent faire le tour et voir ce qu'il y a vraiment là, à offrir sur le marché en ce moment, je pense que ça va être le bon endroit.
Puis on entendait Émile Proulx-Cloutier parler avec Paul Arquin un peu plus tôt ce matin d'un type qui va faire la conversion de camionnettes comme des Ram, des F-150 avec des moteurs électriques. Cette personne-là va être là aussi. Mais à l'autre extrême, il y a des voitures d'exception, les fameuses voitures de...
Olivier
Benoulou avec ses Bugatti à 3 millions de dollars. C'est Koenigsegg, des trucs comme ça.
Ça attire du monde aussi, les voitures en collection. Les voitures de collection.
Puis c'est la beauté du Salon de l'Auto de Montréal. Le Salon de l'Auto de Montréal, on a tout. Il n'y a pas une marque qui n'est pas présente. Non. Il y a de l'exotique, il y a de la voiture modifiée. Toutes les grandes marques sont là. Tu veux de l'information, c'est complet, complet, complet.
On va s'arrêter ici.
Tout comme les stationnements du Palais des Congrès.
Oui, il y a ça.
Ça, c'est le défaut.
Ça, c'est on va aller à la pause. Il y a déjà pas mal de questions de la part de nos auditeurs. Alors, je vous redonne nos numéros tout de même. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais de partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Beaucoup de gens qui sont déjà en magasinage de voitures. Il y a Suzanne qui dit qu'elle veut s'acheter une voiture, mais elle ne sait plus finalement. Elle voudrait peut-être louer. Avril à octobre. Ça, de plus en plus, on voit des gens qui veulent des locations de voitures à court terme aussi. En tout cas, elle a l'air bien découragée, Suzanne. Fait qu'on va essayer de répondre à votre découragement et de vous proposer quelque chose. Il y a Jean-François également qui pose une question. Est-ce qu'il peut louer une voiture électrique? Il songe peut-être à la Kia Soul. Est-ce que c'est un bon véhicule s'il fait beaucoup de conduite en ville? Tous ces genres de questions-là, on vous les prend après la pause.
Tout ça après la pause.
Et voilà! Tu sais comment ça marche. À tout de suite, tout le monde. Je suis avec mes invités Antoine Joubert, chroniqueur auto au Guide de l'auto et Benoît Charrette, éditeur-rédacteur en chef de l'annuel de l'Auto 2019 avec RPM. Merci d'être là tous les deux. Je tiens à dire que nous sommes en ce moment même en Facebook Live. Alors, à toute la communauté Facebook qui nous écoute, merci d'être là.
On va rentrer le ventre.
Profitez-en, ça risque d'être juste pour les 10 prochaines minutes. On a beaucoup de monde qui veulent intervenir, qui ont des questions à poser parce que je vous rappelle que notre sujet, c'est qu'on se pose la question. Si on se magasine un véhicule automobile, lequel choisir? Il y a beaucoup de choix. Ouais. Il y a toujours le débat dont on a beaucoup parlé, nous, l'année dernière avec Antoine et Benoît, VUS versus compact. Le VUS semble avoir la préférence des constructeurs. Et il y a aussi essence versus électrique. Alors, si j'y vais avec Antoine et Benoît d'abord, avant de parler à nos auditeurs, qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui a aujourd'hui toutes les possibilités d'ouvertes et qui se dit « Moi, je suis bien ouvert, je me cherche un char. » Antoine.
Des citrons, il n'en existe plus beaucoup. Non. Il y a quelques cas d'exception. Là, faites pas exprès pour aller vous acheter un Dodge Journey en 2019.
Ah!
On passe à autre chose.
On aime un nom.
Mais des citrons, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des mauvais achats. Il y a des mauvaises locations aussi.
Oui.
Et il y a des constructeurs qui peinent à être compétitifs en location parce qu'on n'a pas de valeur résiduelle, parce qu'on n'a pas de taux de
location. Le financement n'est pas bon, c'est ça.
Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Puis moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez louer un véhicule, louez le véhicule pour le kilométrage qui vous est alloué et tenez-vous-en à ça. Si vous êtes quelqu'un qui roulait 4000 km par année, aller louer un véhicule, ça n'a pas de bon sens parce que vous allez redonner les clés d'un véhicule 4 ans plus tard qui a 20 000 km, vous avez payé pour 80 000.
Oui.
Ça n'a aucun bon sens.
Donc, faites pas ça.
Donc,
louez moment, pas, achetez.
À ce moment-là, achetez-le et revendez-le si vous n'en voulez plus. Mais à tout le moins, la perte va être moins grande.
Mais est-ce que tu dirais que plus tu fais du kilométrage et plus tu as intérêt à louer ton véhicule?
Bien, c'est-à-dire, si tu fais 50 000 km,
t'en fais trop.
Oui, parce que là, tu vas savoir prendre deux autos.
Exactement.
Là.
Voilà,
exactement.
C'est ça.
Ou tu vas regarder ton auto dans ton entrée de garage en disant, mon Dieu, j'aimerais ça la conduire, mais je peux pas, j'ai bossé mon kilométrage.
Voilà. L'électrique, c'est pas compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, avec les autonomies qui sont rendues raisonnables, mis à part quelques cas, ça peut convenir à 80 % des gens. Mais je vous le dis, on est dans... On vit à l'endroit en Amérique du Nord où l'autonomie est la plus faible en hiver à cause des températures.
Ouais.
Donc, ça a un impact, ça. Il faut le considérer. Si vous prenez, par exemple, une Chevrolet Bolt, on annonce 383 km d'autonomie, bien, soyez conscient que l'hiver, quand il fait moins 15, vous allez faire 250.
Ah ouais.
Est-ce que vous êtes capable de vivre avec 250? Dans 90 % des cas, les gens vont dire oui.
Benoît?
Des bons achats réfléchis en ce moment pour les gens qui disent « Moi, j'ai juste une voiture, je ne peux pas m'en payer d'autres, puis je veux tout faire avec », c'est les hybrides branchables qui vous donnent une certaine autonomie électrique. On prend l'exemple de la Volt qui va échanger bientôt. Vous avez 80 km d'autonomie, 100% électrique. Mmh. Donc, ça va convenir à vos besoins de tous les jours pour aller au travail, revenir. Puis si vous allez aller plus loin, ben vous pouvez y aller aussi. Le Clarity va dans le même sens.
Oui, mais là, je te fais une parenthèse. La Clarity, tu peux plus l'acheter.
Non, tu peux plus l'acheter.
Parce qu'Honda, qui est un constructeur qui passe son temps à lancer des hybrides puis à les enlever sur le marché, ils sont encore tirés dans le pied avec cette voiture-là.
Non, attends, j'ai Alain au téléphone. Il s'en est acheté une, lui, une Clarity. Hein, c'est bien ça, Alain?
Oui, bonjour à vous.
Bonjour,
vous avez
bonjour.
Une voiture de collection, mon cher Alain.
Oui, oui, absolument.
J'ai toujours adoré Honda. J'ai eu une Touring... qui a fait 450 000 kilomètres. Là, j'ai une Fit. Puis, j'ai été pour la Clarity. C'est vrai que c'est long. Je l'ai même poursuivi encore. C'est 6 mois de délai. Ouais. On m'a dit que je l'aurais au début de février.
Bonne chance.
Je vous explique pourquoi. C'est que je voulais pas avoir une électrique complètement. Moi, je suis situé à la chute. Et tout ce qui est autour, c'est environ 80 kilomètres.
C'est ça.
Ouais, donc, ouais. La Clarity, elle a 95 kilomètres de...
On annonce 78, mais on est capable de faire un peu plus en de belles conditions.
Moi, j'ai fait 85.
C'est ça.
Avec le véhicule, dans des bonnes conditions l'été. Mais l'espace est intéressant, le confort est là. Bon, ailette, là, on se comprend, là, c'est pas beau.
Oui, vous avez déjà écouté ailette, mais moi, ça me dérange pas, je t'assis dedans.
Ben oui, c'est ça, c'est ce que je dis. L'intérieur est très belle.
Mais c'est un très bon point de vue.
Oui, oui, absolument.
C'est vrai, ça.
Ouais. On puis elle est plus spacieuse, plus confortable, plus polyvalente que la Volt.
Absolument.
À prix égal et à autonomie égale, c'est une voiture qui est plus pratique.
Là, vous parlez de la Fit, là.
De la Clarity. Le seul problème, c'est qu'Honda,
qui est
un constructeur, je ne sais pas comment décrire à quel point ils sont perdus avec les voitures hybrides. Ça lance des hybrides tout bout de champ, puis ça les retire. Ça ne veut pas en vendre.
Non, mais c'est ça, vous disiez que la Clarity était retirée, là?
Oui, parce que l'Honda Insight arrive. Fait que là, on veut miser sur l'Insight, qui n'est pas un hybride branchable, cependant, qui est un hybride tout court. Puis on a comme retiré, en fait, ou mis aux oubliettes la Clarity pour des raisons obscures. Ça vient d'arriver sur le marché.
Mais là, Alain, est-ce que ça vous inquiète de savoir que vous avez une voiture quasiment neuve, puis que vous aurez... Parce que pour les pièces et tout, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là?
Je les garde tout le temps, environ une douzaine d'années, mes autos.
Alors, soyez pas inquiets parce que la voiture se vend aux États-Unis.
D'accord.
C'est juste que le Canada, Honda Canada, les gens ne sont pas très, très audacieux, disons. Là, je suis poli.
t'es poli.
Qu'est-ce que vous voulez
dire? Ils sont extrêmement conservateurs dans la planification de produits. S'ils pouvaient juste vendre des Civic LX noires ou blanches, ils seraient très
automatique.
Heureux. Automatique. Ou des CRV.
C'est ça.
On aime ça pas se casser la tête. Donc, on n'est pas
très
audacieux.
Mais ça se vend bien aussi, en même temps.
Ça se vend bien.
Oui.
Puis la preuve, c'est que la Honda Clarity, la nouvelle Honda Clarity, qui est essentiellement une Civic hybride, à mon sens, un peu plus jolie.
Oui. C'est un châssis d'accord.
Mais c'est une voiture,
c'est un peu plus grand.
Mais c'est une voiture qui consomme à peine 2 litres au 100 de moins qu'une Civic, qui va coûter un petit peu plus cher qu'une Civic, qui a à peu près la même forme de carrosserie, un petit peu plus d'espace à l'intérieur, juste pour dire... Sauf qu'on se pointe chez un concessionnaire. Des Civic, il y en a 90 dans le cours. Insight, il y en a une. Tu la finances à 5-6 % de taux d'intérêt. La Civic est à 0,9 avec des pneus d'hiver gratuits. Qu'est-ce que tu achètes?
Laisse-moi réfléchir.
On fait tout pour ne pas vendre d'hybride chez Honda.
Comment ça se fait?
Et on pose la question aux gens, puis non, ça fait partie de notre stratégie, puis on est très avare de commentaires chez Honda, comme d'habitude.
Ils font semblant, mais dans le fond, ils veulent pas.
Tu as un constructeur comme Toyota qui en profite. Tu as des constructeurs comme Kia, comme Hyundai, qui rentrent à plein fouet dans le marché. Puis Honda, on leur tape dessus depuis 20 ans, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Honda est le premier constructeur en Amérique du Nord à avoir offert une hybride sur le marché, même avant Toyota. Qu'est-ce qui se passe chez Honda? On ne le sait pas.
Merci beaucoup, Alain. On va parler à Alexandre. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Est-ce que vous vous magasinez un véhicule?
Oui, je regarde le Rogue. En fait, j'aimerais vraiment trouver de quoi d'hybride. Et je sais que Rogue est vendu hybride aux États-Unis.
Oui, mais pas ici.
Maintenant, le problème, c'est que j'ai besoin de l'espace sans aller encore plus gros, comme le Highlander, par exemple, de Toyota, qui est aussi beaucoup plus cher.
Oui, puis qui est vieillissant. Le Highlander change cette année, fait que ça sera une mauvaise idée d'acheter ça là. Il va y avoir un tout nouveau modèle probablement autour de l'été.
Mais là, on parle de 55 000.
On parle de 55 000. Toi, Antoine, t'as roulé le PHEV, le Outlander, là, qui est peut-être
Il y a deux solutions
exemple.
Pour l'instant. Si vous voulez aller dans l'hybride dans ce segment-là, ouais. c'est le Outlander PHEV ou le RAV4 hybride.
Voilà.
Qui, en bout de ligne, vont consommer à peu près la même chose, mais dans des formules différentes.
Lequel tu préfères, Antoine?
Le RAV4 est un véhicule beaucoup plus moderne, oui. mais ce n'est pas un véhicule enfichable. L'avantage non. du PHEV que j'ai roulé pendant 2500 km durant les fêtes, c'est que pour de courtes distances, on peut rouler en 100 % électrique. Alors, quelqu'un qui fait 20, 30, 40 km, qui est capable de se brancher au travail, revenir à la maison, va pouvoir rouler à du 2 litres au 100, 2 litres et demi au 100, ce qui est impossible de faire avec un RAV4 hybride qui va consommer en moyenne autour de 7.
7, à peu près 7. Mais faut être discipliné.
Faut être en éco-conduite, là.
Bien, faut être en éco-conduite. T'as-tu réussi à faire 30 l'hiver? Avec ton PHEV, 30,
pas s'il y a du chauffage.
Non.
S'il y a du chauffage, les sièges chauffants, on oublie ça, on est à 22-23 km d'autonomie en électrique. Mais hey, passer
c'est pas
ça,
beaucoup,
c'est
là.
Pas beaucoup.
Mais en
pas
roulant,
beaucoup.
Moi, j'ai fait un Montréal-Québec avec le PHEV à vitesse légale, c'est-à-dire je roulais 100 km/h. J'ai vraiment fait le
T'es
test.
T'es resté éveillé?
Je suis resté éveillé. le chauffage à 21 degrés, parce qu'à partir de 22, automatiquement, le moteur à essence va embarquer tout le temps. Mais évidemment que là, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres sans me recharger et j'ai fini mon trajet à 7,7, 7,8 litres au 100.
C'est quand même
mieux à des températures de moins 15, il faut le dire. Alors, l'été, c'est beaucoup mieux ouais. que ça. On est capable de
puis
rouler à du 6, 5,
puis moi, l'été,
6.
J'ai réussi à faire 36, 37
c'est
kilomètres.
Ça. Alors,
donc,
alors
on
l'été...
On est un peu mieux. Mais il faut être discipliné. Quand tu reviens chez toi, il faut que tu aies le réflexe de te brancher.
Ouais.
Parce que ça s'épuise vite. Là. Tu vas faire 2-3 commissions, tu reviens chez vous, ta batterie.
Et puis la conduite, moi, j'ai remarqué, là, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne suis pas, je l'avoue, une éco-conductrice. Là. J'ai vraiment beaucoup de difficultés.
Non,
je suis un petit peu,
on est surpris.
Mais écoute, moi, j'adore conduire. Fait que j'aime ça un peu, tu sais, pousser la voiture.
Quand même, sérieusement.
Sinon, je prendrais l'autobus. c'est ça ma logique.
Mais c'est ça.
Alors,
c'est
dans
les
ce
deux
temps-là,
solutions...
t'es tout le temps sur l'essence, tu comprends?
Ben, pas nécessairement. Puis moi, je t'avoue que l'élément que j'aime du PHEV, c'est au moment où tu roules en électrique, c'est agréable.
Aye.
C'est silencieux. Il y a du couple. Le couple d'un moteur électrique, il y a ça d'agréable.
C'est
fait
la
que
grande
moi,
vitesse,
ça me motivait à toujours le brancher pour pouvoir profiter du fait que
ça
je roule en
un
électrique.
Défi. Un défi.
C'est ça.
Ouais.
Ça devient
c'est
un défi. Exactement.
Quand on parle de discipline, c'est ça. Là.
La différence, c'est qu'évidemment, le PHEV, un peu plus cher. 4 000 de rabais gouvernemental applicable dessus, mais en bout de ligne, ça revient quand même un peu plus cher qu'un RAV4 hybride qui, si on roule plus que 50 km quotidiennement avec le véhicule, etc., en bout de ligne, la différence de consommation d'essence n'est pas si grande
non,
que ça.
Ça sera
alors, j'imagine qu'on a répondu à votre question, Alexandre. Allez-y.
Oui, ma deuxième question, est-ce que je serais mieux de louer un ROG et de voir ce qui se passe dans 4 ans? Est-ce que j'aurais plus de chance?
Moi, je vous dirais, allez dans l'hybride là. Vous avez deux bons produits dont on vous a parlé. Puis dans votre prochain achat, il n'y aura pas seulement le Rogue, mais il y aura beaucoup d'autres choses qui vont s'être ajoutées. Là, tout le monde va arriver dans ce marché-là. Là.
Sauf que le Rogue, actuellement, il n'est pas cher. Puis c'est ça qui est attrayant.
Ouais.
C'est un véhicule qui ne consomme pas beaucoup. Le Rogue va consommer quoi? 2 litres, 2 litres et demi au 100 de plus qu'un RAV4 hybride en moyenne maximum.
Mais on les donne.
C'est pas pour rien qu'on en a vendu autant cette année et que c'est un des plus gros vendeurs au Québec. Les prix sont super attrayants.
On parle de combien?
Ah, ben c'est parce qu'on est agressif sur les taux de financement, etc. Puis on est
peut-être. Tu peux vraiment pousser ton vendeur.
Tu sais. À équipement équivalent, t'es toujours à peu près à 2 à 3 000 $ de moins qu'un CRV, qu'un RAV4. Alors, ça vaut quand même la peine. Mais est-ce que c'est le choix numéro un que je prendrais dans le segment? Non, parce que c'est quand même un véhicule qui a vieilli. Il est attrayant pour sa consommation d'essence, pour sa fiabilité et pour son prix, mais pas nécessairement pour sa technologie et son rendement général.
Ben merci à vous, Alexandre, pour votre question. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires au 514-790-9850. Pour nous joindre sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous pose la question, est-ce que votre prochain véhicule sera un compact ou un VUS? De plus en plus, les constructeurs choisissent de faire des 7 places, comme si on en avait tous besoin. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Est-ce qu'il sera à essence ou électrique? En ce moment, l'essence est vraiment pas chère, mais ça fluctue. C'est comme d'autres choses. Mais est-ce qu'il faut aller vers l'électrique, se faire un geste aussi pour la planète? C'est un peu les questions qu'on se pose. À tout de suite, tout le monde. On parle de véhicules automobiles parce que le prochain salon de l'auto de Montréal Montréal ouvre ses portes en fin de semaine. D'ailleurs, ce samedi, à l'émission Week-end Extra en direct du Salon de l'Auto, de 7 à 11, mon collègue Mathieu Beaumont sera même sur place avec son équipe. Benoît Charrette sera
là,
également avec, entre autres, Philippe Lagu. Donc, ça sera l'occasion d'aller rencontrer nos amis. Antoine Joubert est avec nous, Benoît Charrette également. On parle de véhicules automobiles. On répond à vos questions. Karine, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Oui, moi j'ai une question. J'ai réservé deux voitures et j'arrive pas à me décider. Je me donnais jusqu'à vendredi, donc ça tombe vraiment bien que je vous parle.
Avez-vous mis un dépôt sur les deux?
Oui!
Oh,
oui.
Ah, mon Dieu, OK!
Puis je me donnais la semaine, j'arrive pas à me décider, donc vraiment, là, je suis très contente de vous parler. J'hésite entre la e-Golf 2019 ou la Leaf 2019.
Bon,
pour des raisons différentes, j'adore les deux, puis je sais pas laquelle choisir.
Ouais, e-Golf puis Leaf, donc Benoît.
En termes d'autonomie.
C'est ça qui m'inquiète, en fait, l'hiver, la e-Golf, l'autonomie.
Ouais,
les forums de discussion sont vraiment très partagés, là, je sais pas ce que vous en pensez.
En fait, moi, mon cœur balance, parce que la e-Golf est plus le fun à conduire que la Leaf.
Exactement.
Mais la Leaf a une meilleure autonomie que la e-Golf. Fait que ça dépend ce que vous faites.
Mais on parle de combien d'autonomie différente?
On parle d'à peu près 200 km dans des bonnes conditions pour la e-Golf. Okay. Puis on parle de 250-60
pour la Nissan.
Puis là, la prochaine Leaf va avoir 360-375. Là, on attend ça pour 2019. Moi, ma question, ça serait, c'est quoi le maximum que vous faites en mode 100% électrique? Là? Vos déplacements se résument à quoi exactement?
80 par jour, mais j'aime pouvoir aller, mettons, skier une journée dans les Laurentides. Donc là, ouais. La e-Golf, dans les temps froids, moi, ma
vous
voiture
elle
est à l'extérieur.
Ouais.
C'est ça, exactement.
Moi, pour vous donner une idée, l'an passé, j'ai roulé une e-Golf en février. Et moi, je la charge dans le garage à la maison, donc pas à l'extérieur. Donc ça, c'est un avantage,
oui. Est
au chaud. Et sortir dehors, rouler ça l'hiver à moins 15, là, on parle de 130.
Ouais.
135 maximum.
Alors que la Leaf, okay. Hein?
La Leaf, on va faire du 180.
Ouais, 180, 200, c'est pas trop fort.
Hey, ça perd beaucoup l'hiver, hein, pareil.
Ah ben oui, ouais. Ça perd beaucoup.
Ah oui, ça perd
surtout
beaucoup.
Si la voiture, elle passe la nuit dehors, ça affecte aussi.
Ouais. L'autre solution, c'est de vous trouver une prise rapide quand vous vous déplacez. Il y en a de plus en plus. Vous arrêtez un 20 minutes. J'ai une amie à moi qui a acheté une e-Golf qui voyage à Québec elle, régulièrement. Puis dans son déplacement...
Va manger du poulet, c'est
non,
ça?
Non, mais elle arrête à Drummondville. Il y a des charges rapides à Drummondville. Ouais. 20 minutes, puis elle se rend à Québec.
Moi, c'est sûr que la e-Golf, c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais rationnellement, je vais vous recommander la Nissan.
Moi, oh, pas là, okay. Puis Benoît?
Je suis obligé d'aller là, moi
aussi. Oh, ben là, Karine, là, il vient...
Si on oublie l'autonomie, mettons, parce que moi, on est quand même un autre véhicule dans la famille...
Si on oublie l'autonomie, je prends la e-Golf. C'est clair.
Okay. Pour
la conduite, c'est le modèle le plus intéressant que j'ai roulé dans à peu près tout ce qui se fait.
J'oserais dire, par contre, que Nissan a plus d'expérience en développement technologique de voitures électriques. On est à peu près les premiers à avoir lancé une Leaf sur le marché. Les premières Leaf, on le sait, les batteries se sont affaiblies rapidement. Mais on a corrigé, on a appris de nos erreurs. Alors que la e-Golf, c'est un peu la nouvelle voiture électrique de Volkswagen. J'ai pas entendu d'histoire d'horreur pour cette voiture-là, mais c'est certain que...
Le fait qu'il la discontinue, est-ce que ça peut être un facteur problématique?
Non. C'est pas un facteur problématique, je veux dire, c'est juste la fin de carrière de ce modèle-là. On va arriver avec d'autres modèles électriques après, donc non. Et c'est une voiture qui va garder sa valeur. Ça m'inquiète pas.
Avez-vous réussi à... êtes-vous branché, c'est le cas de le dire? Là?
Si vous avez une autre voiture, si vous avez une autre voiture que vous êtes capable de vous dépanner avec un autre véhicule, puis que vous aimez le plaisir au volant, je vais aller chez Volkswagen. Mais si c'est votre unique véhicule, que vous avez un besoin d'autonomie, puis que vous pensez rationnel. Le côté rationnel, c'est la Leaf. Le côté passionnel, c'est la Golf.
Fait que donc vous gardez laquelle, Karine?
Je vais voir si j'écoute mon cœur ou ma tête.
Ah, c'est ça, voilà.
Merci beaucoup.
Puis la e-pédale, j'ai juste une petite dernière question.
Oui.
La Golf n'a pas la e-pédale. Est-ce
non.
que la e-pédale est vraiment avantageuse pour l'économie?
La e-pédale, c'est du marketing.
Non, la e-pédale, c'est une régénération. C'est de la régénération. Moi, je conduis toujours une Leaf, je la conduis toujours avec la e-pédale en fonction. Sauf que la Golf, oublie n'oubliez pas que vous avez différents modes de conduite. Donc, il y a un peu d'équivalent de du e-pedal qui se retrouve sur la Golf.
Le mode B, là. Il y a
mais ce n'est pas aussi intrusif.
Non.
La Leaf, elle est fun aussi quand même.
Oh, oui, la Leaf, elle est fun.
Quand tu n'as jamais conduit de véhicule électrique, tu te trouves...
Puis c'est une auto qui est plus confortable qu'avant sur l'autoroute. Ouais. Par contre, pour l'autoroute, la Golf, ça reste une voiture plus stable, plus intéressante à conduire.
Fait que toute la question est dans l'autonomie. Merci beaucoup, Karine. Merci bien. Bonjour, Linda.
Bonjour. Moi, c'est une question.
Oui.
Je voudrais acheter un Kona électrique.
Oui.
Mais la semaine passée, on a arrêté chez le concessionnaire, mais il n'a pas voulu vraiment nous vendre l'électrique. Il nous a proposé le Kona ordinaire.
C'est un imbécile. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Et ça, je condamne ça haut la main parce qu'il y a un paquet de... Ça, c'est un gars qui pense avec son inventaire.
Mais c'est parce qu'il l'a dans la cour, peut-être.
Oui, c'est ça.
Non seulement il l'a dans la cour, mais tu vas revenir avec un modèle essence, tu vas avoir de l'après-service, tu vas avoir de l'argent qui va se faire après, alors qu'il n'y en a pas avec l'électrique. Puis il y a des vendeurs qui pensent par leur poche alors qu'ils devraient penser avec leur tête.
Mais ça là, je condamne ça haut la main.
Oui.
Kia, c'était le problème au début avec la Soul électrique. On est débarqué avec ça. La moitié des concessionnaires ne prenaient pas ça au sérieux. On riait de ça. On voulait vous vendre un Sportage au lieu d'une Soul électrique. On faisait tout pour ne pas vendre ce que le client voulait avoir.
C'est pas le cas que chez Kia. Hein. Tous ceux qui avaient des véhicules électriques les laissaient en arrière puis les cachaient. Puis ça les intéressait pas des ventes.
Non, non. Fait que moi, ma recommandation, c'est changer de concessionnaire puis aller voir un concessionnaire qui est sérieux. Moi, je le bannirais puis je le condamnerais. Oh la main.
Ouais, okay.
Mais on a donné 400 $ de dépôt sur un Kona ordinaire à gaz.
Allez le rechercher.
Ramassez-les.
Ramassez-les,
prenez l'électrique. L'électrique va extrêmement bien. Vous avez 415 km d'autonomie. C'est un des premiers utilitaires à avoir autant d'autonomie. Moi, je vous dirais, là, c'est un véhicule extrêmement intéressant.
Mais Linda, je suis curieuse. Si vous allez chez un concessionnaire pour vous acheter une Kona électrique, pourquoi vous mettez un dépôt sur une Kona à essence?
Parce que c'est un bon vendeur.
Ben, il n'y a pas juste ça. Il y avait le prix aussi.
Le prix est moindre, c'est clair. Sauf que si vous avez le budget pour aller dans l'électrique avec ce modèle-là, allez-y, ça vaut la peine.
OK. Ben merci beaucoup, Linda. Merci bien.
Puis c'est une bonne machine, la Kona électrique.
Ouais.
C'est vraiment intéressant.
Mais c'est disponible? Il y en a
au-dessus? Oui.
Ben, l'inventaire est difficile. C'est sûr qu'il n'y en a pas autant que des Kona à essence. Là.
Ouais. On a Diane avec nous. Bonjour, Diane.
Oui, bonjour. Ouais. Bon, moi, j'ai une Honda Accord 2007.
OK.
75 000 km. Et je recherche un peu semblable. J'ai essayé des hybrides électriques il y a quelques mois passés.
Mm-hmm.
Et bon, j'ai une décision à prendre. Puis ça fait quelques mois, j'arrête à quelques occasions là dans des, je sais pas là vraiment. Et je suis une personne, ça va probablement être ma dernière voiture. Donc, puis je veux une belle voiture. Donc, je suis pas certaine.
Vous regardez pour une berline intermédiaire mais hybride.
Ah bon, OK.
Est-ce que vous cherchez le même format que votre Accord, finalement?
Ben pas plus gros parce que je suis seule, mais j'ai une belle voiture, donc je sais pas, là.
Benoît, je pense...
Je fais pas beaucoup de millages par année, je fais beaucoup de bénévolat, donc autour.
Moi, j'irais... Dans ce segment-là, je pense que la meilleure voiture hybride, c'est la Camry. La Camry, on l'a renouvelée. L'accord est pas méchante non plus, mais en termes d'efficacité énergétique...
Oui, mais elle est plus grosse, l'accord
est encore plus gros.
C'est ça, parce que comparé, vous m'avez dit que vous avez une 2007, la nouvelle Accord est pas mal plus grosse, alors que la Camry est pas mal dans le format de votre Accord 2007.
C'est la plus économique, c'est la plus fiable, c'est celle qui va garder sa valeur, c'est celle qui va vous coûter le moins cher en entretien à long terme. Si c'est votre dernière voiture et que vous la gardez longtemps, cassez-vous pas la tête, allez chez Toyota, vous allez avoir un produit exceptionnel. Et moi, je vous dirais même que la Camry hybride, c'est une meilleure voiture, c'est la meilleure Camry qu'on puisse acheter. Meilleure que le 4 cylindres régulier, meilleure que le 6 cylindres, c'est vraiment super bonne formule.
Merci beaucoup. Yvon, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je vais vous parler d'une voiture que j'ai achetée, qui est la Toyota Prius Prime.
Oui.
Dans 12 000 km, là, j'ai fait 5 pleins d'essence parce que j'ai fait des grandes distances. Autrement, là, je pars de Longueuil, je me rends à Varennes, puis je reviens chez nous là, sur un plein électrique.
Vous êtes économique à rouler.
Vous ne rechargez pas à Montréal. Vous
rechargez à Varennes.
Vous allez à Longueuil?
Ah non, je ne change pas à Varennes. Là.
Moi, l'été,
en mode économique, là, parce qu'il y a trois modes de conduite là, là-dessus. Là.
Oui.
En mode économique, là, je monte ça jusqu'à 50 km d'autonomie.
Mon Dieu, combien de personnes sont décédées autour de vous? Parce qu'honnêtement...
Non,
c'est une voiture qui a 27-28 km d'autonomie électrique. Ça.
Moi, j'ai fait 30, puis j'ai tiré dessus à 30. Là.
C'est pas vrai.
Mais vous êtes extrêmement économique en
conduite.
Ça
dépend comment vous conduisez. Si vous roulez sur une route de campagne à 55 km/h, pas de climatiseur, OK.
Non. À 100 km/h, puis avec l'air climatisé, puis je me prive de rien, moi, ni du chauffage, ni d'air climatisé. Alors, c'est ça.
Eh bien, vous êtes bon.
Et j'en ai essayé plusieurs voitures, là. Et je peux vous dire que, comme portée, là, Toyota, c'est dur à
faire. Ah, c'est une bonne voiture. Ça, pour bien aller, ça va bien. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai de la misère à croire votre autonomie parce qu'on les a roulées, ces voitures-là. Passer 30, 32, là, ça commence à être difficile. Moins d'être dans des conditions optimales.
On va aller à la pause là-dessus. Merci, Yvon. On revient tout de suite après. 514-790-9850 pour parler à nos chroniqueurs et nous poser des questions, d'ailleurs, sur votre prochain achat de véhicule. À tout de suite, tout le monde. On parle de véhicules électriques, bonjour, et véhicules à essence aussi. Moi, je t'ai déjà passé dans Tendance Québec. Moi, finalement, j'avais zappé l'essence.
J'ai trouvé ça intéressant parce que tous les appels qu'on a eus, on a parlé de voitures hybrides électriques. Tu vois qu'il y a un intérêt au Québec. Puis pour vous faire une comparaison, on était à Détroit, Benoît et moi, cette semaine. Rapidement, ce qu'on a présenté, Ford Explorer, VUS 7 passagers. Oui, il y a une version hybride, mais il y a aussi une version sport à 400 chevaux avec un V6. Mustang, 700 chevaux, Shelby GT500. La Toyota Supra, 335 chevaux, nouvelle voiture sport.
C'est comme si c'était
un Ram
autre
HD avec 1000 livres de couple.
Ouais. Un Kia Telluride, 7 places. Un Cadillac XT6, 7 places.
Le nouveau Hyundai Palisade était là.
Ouais.
Le Lincoln Aviator, 7 passagers, était là. C'est des gros VUS 7 passagers. C'est ça qu'on lance cette année.
On est un petit peu décalé par rapport aux tendances actuelles.
Voiture électrique n'a été présentée là-bas, mise à part un concept chinois. Ouais. Ah, puis un véhicule concept de Nissan.
Voilà, puis le QX Inspiration.
Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on doit conclure
de ça? Qui n'a pas marché.
QX Inspiration, on fait une présentation. C'est drôle, on va le dire quand même.
Oh, oui,
on présente un véhicule et au moment d'amener le véhicule sur la scène lors de la présentation, le véhicule ne démarre pas, ça ne fonctionne pas. Alors, on le laisse en vidéo, ça n'a jamais fonctionné. Et on reçoit le communiqué de presse quelques secondes après. Et il y a une faute d'orthographe dans le premier mot du communiqué de presse. Bref, ça a été comme le fiasco du salon, cette histoire-là.
Et c'est quel véhicule, ça?
C'est un concept Inspiration. Infiniti électrique. Honnêtement, semble intéressant. C'est juste que là, ils ont été badlockés.
Puis il était présenté par Karim Habib, qui est un Montréalais, qui est le designer de l'auto. Alors, je suis allé le voir après, puis il dit, c'est un petit peu embarrassant de parler d'un véhicule qui n'est pas là.
Fait que ce sont les monstres américains qui ont volé la vedette.
Donc, mais ça veut dire quoi? On conclut quoi? C'est que le Québec est un village gaulois en matière d'électrique? Ou que le marché américain, c'est complètement autre chose?
On peut remercier la Californie, parce que si la Californie n'était pas là, le Québec n'aurait pas de voiture électrique. Point final.
Et un des points d'intérêt dont Vincent Kobe de Mitsubishi parlait tantôt, c'est que maintenant, c'est la Chine qui domine au niveau des tendances qu'on voit des constructeurs, parce que c'est 30 millions d'autos par année qui passent par là. Et là, si la Chine veut de l'électrique, les constructeurs vont faire de l'électrique. Donc ça nous bénéficie par la bande au Québec.
On a Stéphane avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, moi, je dois être le Romain dans le village gaulois parce qu'un char électrique, ça m'intéresse pas en tout. Moi, je possède une voiture d'été puis une voiture d'hiver. Puis ma voiture d'été, qui est une Audi TT, commence à vieillir. Puis là, je pense à la changer. Puis j'hésite entre me racheter une Audi TT, mais la version RS, ou m'acheter une Porsche Cayman. Ce que je recherche, c'est quelque chose qui est fiable puis qui coûte pas trop cher d'entretien. Fait que j'hésite entre les deux.
Pas trop cher d'entretien, ça va mal.
Ouais, mais parce que dans les deux cas, il va y avoir de l'entretien en fin de suite.
Ce sont deux machines exceptionnelles. La TTRS, c'est une bombe extraordinaire, mais c'est réellement inconfortable. Si vous cherchez une voiture juste un peu plus pratique, moi, pour l'ensemble de l'œuvre, je vais préférer la Cayman. Même si elle est moins rapide sur un 0-100 km/h, par exemple, la Cayman, c'est tellement... un équilibre parfait.
La conduite. Même si j'aime, moins le 4 cylindres, là, j'avoue que le 4 cylindres me tire l'oreille un peu, mais au point de vue conduite, d'équilibre, c'est un moteur central.
Mais là, on parle de combien là, d'achat à l'achat?
C'est 90 000 et plus, dépendamment du modèle.
Si on regarde un Cayman S, là, parce que moi, je n'irais pas à la version de base, si on regarde un Cayman S, c'est 90. Si on rajoute un radio cassette, on est à 105.
Oh mon
Dieu! Les options chez Porsche, c'est cher.
Hey, Stéphane, là, voulez-vous mettre autant d'argent pour, dans une voiture?
Moi, ça va être un char de 1 an à 2 ans. Je ne l'achète pas neuf, ça, c'est sûr. Mais,
okay. Ah, bien, si vous ne l'achetez pas neuf, regardez un Cayman S 2015 6 cylindres.
Oui, monsieur.
C'est ça que je m'en liais, mais quand ils ont sorti la TTRS 2017, là, j'ai eu un petit ouf là, à 400 forces de moteur. Là, j'ai dit, tabac, je la trouvais belle avec le dash. C'est ça. Puis j'en ai déjà une Audi. Là,
c'est raide.
Au quotidien, vous allez être plus confortable dans une Cayman.
Bon. Merci.
Et d'après moi, ça se revend mieux aussi.
Oui. Merci beaucoup,
et
Chantal.
Ça perd moins sa valeur.
Chantal est avec nous. Bonjour, Chantal.
Bonjour. Moi, j'ai une RAV4 2010 limitée V6. Je suis coursier immobilier, donc je suis souvent sur la route. J'aime beaucoup mon 4x4. J'adore ma voiture, mais je voudrais peut-être m'en aller dans l'hybride. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y aurait de similaire à ma voiture quand ça va être le temps de changer.
Ben voilà, le RAV4 hybride, c'est mal la solution. Vous allez perdre en puissance parce qu'un RAV4 V6 2010, c'est assez puissant. Mais vous allez économiser à peu près 40 % d'essence par rapport à ce que vous avez là. Parce que là, vous roulez à du 12 litres au 100 à peu près. Le RAV4 hybride, vous allez rouler à du 7. Puis vous allez bien aimer ce véhicule-là. Moi, je l'ai conduit. La nouvelle génération du RAV4 hybride qui arrive chez les concessionnaires présentement, moi, je pense que c'est la meilleure formule dans un VUS compact à traction intégrale sur le marché actuellement.
Puis vous allez avoir la
Je l'avais essayé, le RAV4. Je l'avoue, là, il y a plusieurs années, c'est le modèle à essence, là, pas hybride. Sur l'autoroute, je trouvais qu'il n'y avait pas de tenue de route. Je me sentais vraiment instable. Tu sais, sur la 10, en grand vent, tu dis, bon, pas le fun.
Oh mon Dieu, pourtant, moi, tout le monde adore utiliser ma voiture. Je l'adore. À part n'importe quand, il y a de la glace, il y a de la neige.
Et au niveau de la tenue de route, vous avez...
C'est sensible. C'est-à-dire que le véhicule que vous avez, c'est un peu plus sensible aux vents latéraux que d'autres modèles du segment, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec la nouvelle génération.
OK. Non, vous allez avoir une meilleure stabilité. Je reconnais, moi, c'était il y a plusieurs années. Donc,
on a
retravaillé
ça pour la nouvelle génération, mais vous allez être très satisfaite avec un RAV4 hybride, là, le 2019.
Bon, ben super, merci. On a Serge avec nous. Bonjour, Serge.
Bonjour, Isabelle. Merci à vos chroniqueurs. Moi, j'ai un Lincoln 2017 MKC.
Ouais.
Et en 2019, au mois d'août, j'aurai à le changer. C'est une location 3 ans. Et je commence à regarder le véhicule électrique. Je demeure à Montréal. Je fais entre 17 et 20 000 km par année. On a une deuxième voiture si j'ai besoin de faire des grandes routes. Et je me demande qu'est-ce que je pourrais avoir dans les mêmes genres de segments de véhicules que j'ai à l'heure actuelle pour à peu près les mêmes valeurs.
Bien, un Lincoln MKC, c'est quand même un véhicule de 50, 55, 60 000 $ lorsqu'on met un peu d'équipement dedans.
Exact.
Et il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas de VUS compact de luxe électrique sur le marché actuellement.
Non, bien, il y a le Kona, là, qui serait.
Le Kona, c'est beaucoup plus petit.
C'est plus petit, sauf que si vous prenez un modèle, il y a le modèle le plus équipé autour de 51 000 $ qui va revenir à peu près à ce que vous avez payé pour le MKC, qui va vous donner 415 km d'autonomie. Là.
Vous n'aurez jamais le confort.
Mais vous n'aurez pas le même confort. Sinon, il faut aller dans un Jaguar I-Pace, mais là, on est rendu à 100 000.
À 100 000. C'est ça. Ça n'a pas d'allure. Moi, je vous dirais, peut-être que vous pouvez opter pour un Outlander PHEV, moins luxueux, mais si vous allez pour un modèle tout équipé, à peu près à ça, 50-52 000, là, vous avez un modèle hybride enfichable.
Ouais.
Et pour le kilométrage que vous faites, si vous êtes capable de vous brancher à la maison, c'est peut-être la meilleure formule.
Merci, Serge.
On a entendu parler, de l'Audi Q5 qui deviendrait hybride ou électrique, c'est vrai?
Ouais. Ça va arriver prochainement, mais ça, attendez-vous à 80 000 $
Voilà, ça va être pour 2020.
Merci beaucoup, Serge. Il nous reste 30 secondes. Il y a quand même une question importante. On parle beaucoup d'électrique, mais au Québec, on l'a vu, l'autonomie, c'est important pour nos auditeurs. Dominique, dis-moi, là, comment je fais? Je peux pas. Je me stationne dans la rue, je peux pas brancher ma voiture tous les jours. J'ai pas vraiment de borne autour. Qu'est-ce que je peux faire?
Acheter une voiture à essence.
Ouais. On va attendre les bornes à induction pour les grandes villes, c'est encore un problème, mais effectivement, la solution n'est pas encore là pour ces gens-là.
Ouais. La voiture électrique, c'est pas pour tout le monde.
Non.
Ça s'adresse à beaucoup de gens, mais c'est pas pour tout le monde. Non. Alors, venez nous voir au Salon de l'Auto. Hein, on va être là pendant 10 jours.
Ben oui, ça commence...
Au kiosque de la nuée de l'automobile,
demain
ça commence
matin,
vendredi.
7h30, je suis présent, puis ça commence vendredi.
Au Palais
vendredi
des Congrès,
pour le public, jusqu'au 27.
Puis bonne chance pour vous trouver un stationnement.
Allez-y en moyen de transport, ce sera un petit peu notre geste pour la planète. Merci Antoine Joubert, merci beaucoup Benoît Charrette. Restez là, on se retrouve après les nouvelles.